joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit seule, les jours sont, je demeure. Les mains dans les mains, nous restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours sont longs, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente. L'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours sont longs, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau, sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours sont longs, je demeure.
Voilà, 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 nous sommes revenus donc en direct ici dans les studios de Vague FM. Donc comme je vous le disais juste avant, donc aujourd'hui une émission avec deux invités. D'abord Cécile Richard, bonjour.
Bonjour.
Alors Cécile Richard, vous êtes la fondatrice des éditions du Jeu de Loi à Châteauneuf, qui est basé à Châteauneuf, c'est ça, sur Loire.
À Châteauneuf, sur Loire.
D'accord,
absolument.
Ok. Voilà, donc, dans un premier temps, on parlera un petit peu de ces éditions, comment ça vous est arrivé, est-ce que c'était en pleine nuit, vous avez eu une révélation, je ne sais pas trop. Et puis, on parlera un peu de vous aussi. Et puis, en deuxième partie, ben, on parlera avec quelqu'un qui va se présenter lui-même, d'ailleurs. Vous, présentez-vous, dites qui vous êtes, parce que ça c'est intéressant.
Et oui, mais en fait je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas je vais déjà me présenter par mon nom. Je
voilà.
M'appelle Pierre-François Chaumereuil,
oui.
Et je suis auteur aux éditions du Jeu de Loi.
Voilà, voilà. Et vous avez sorti récemment un livre qui moi m'a franchement enchanté, parce que d'habitude, vous savez. Bon, comme on a pas mal d'activités, bon, la lecture, il faut prendre son temps, il faut se trouver un moment hein, dans la journée. Moi, c'est souvent le soir très tard, dans la nuit. Et en principe, je lis 2, 3, 4 pages. Et ben, donc, un bouquin, ça me fait au minimum une semaine, hein, une bonne semaine. Et alors, figurez-vous que moi, là, deux jours et demi, j'avais terminé de lire ce bouquin qui est franchement quelque chose qui m'a attiré beaucoup parce que bon, je vais pas tout dire maintenant parce que sinon, mais enfin, on se retrouve au Moyen-Âge, c'est tout ce que je vais vous dire. on retrouve un petit peu la société de cette époque-là, les besoins, les coutumes, les écueils aussi de cette société, et tout, avec des jeunes. Maintenant, bon, les jeunes, ils ont aussi des idées. Parfois, ils veulent faire des choses et puis ça ne se concrétise pas, ou du moins, ça avance jusqu'au bout d'un moment où on s'aperçoit qu'on ne peut pas aller plus loin. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. On va commencer donc par le commencement, Cécile Richard. Les éditions du Jeu de Loi, elles existent depuis combien de temps ?
Alors, depuis 2012. En 2012, effectivement, à votre question, est-ce que je me suis réveillée la nuit ? Non, ça, c'est un projet qui s'est mûri lentement et parce que, en fait, les livres, c'est mon élément depuis toujours. Et puis, mon autre passion, c'est vrai que c'est ma région, c'est la Loire, sont ses paysages, c'est son histoire. Et puis, voilà, tout ça mis bout à bout. Il y a un jour où je me suis dit, voilà, la maison d'édition, c'est l'entreprise qu'il me faut.
Oui, mais alors dites-moi un petit peu, l'édition, ça se monte pas comme ça, tout seul. Je veux dire, comment vous avez fait ? Vous avez d'abord rencontré des auteurs ?
Alors, il y a eu un premier projet de livre, effectivement. C'était un livre sur la Loire. Donc, ce projet existait. Oui. Et puis voilà. Après, à partir du moment où vous avez édité un livre, c'est très étonnant. Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens, de personnes en France qui écrivent. Oui. Et tout de suite, il y a des gens qui disent « Ah, vous êtes éditrice. Ah, mais j'ai écrit quelque chose. » Et voilà. Et ça vient très vite. Alors, bon, évidemment, bien rapidement, on se rend compte qu'il faut faire le tri, avoir un comité de lecture, etc. etc. Voilà, à la question « Arriverez-vous à trouver de la matière ?» finalement, c'est pas trop la question. La question, ça va être justement de trier et puis ensuite, ça va être de se rendre compte ce qu'il faut faire pour que ça se vende.
Voilà.
Parce qu'en fait, c'est ça, la problématique de la maison d'édition qui est pérenne. Moi, ça fait 13 ans. C'est quand même une maison d'édition qui doit vendre des livres. Parce que c'est facile d'éditer. Mais vendre, c'est plus compliqué.
Donc, d'où votre présence dans de nombreuses foires, nombreuses expositions, pour justement faire connaître ce que vous éditez.
Mais écoutez, hier, par exemple, j'étais aux heures historiques de Sully, tout ce week-end. Ça a été un très, très, très grand moment, déjà par la qualité de la manifestation. On a vraiment des manifestations d'une qualité formidable dans le Loiret. Il faut les saluer, il faut y aller, il faut les soutenir. Et puis, la rencontre du public, c'est irremplaçable. Moi, je sais que j'ai eu une rencontre fabuleuse avec un petit garçon de 6 ans. Qui a commencé à feuilleter un livre qui s'appelle Dans mon jardin il y a un livre qui n'a pas été conçu pour les enfants au départ, qui a été plutôt conçu pour les adultes. Vous voyez ce sont principalement des photos. Il y a quelques textes qui encouragent le lecteur à favoriser la biodiversité au jardin, et on voit beaucoup de photos de tous les autres animaux qu'on a au jardin. Et ce garçon qui avait 6 ans, qui connaissait déjà une foule d'animaux, et on sentait sa passion pour la nature, sa connaissance, et puis son père qui a très, très volontiers pris ce livre pour encourager son garçon à continuer à aimer la nature, à la connaître. Voilà, ça a été une rencontre fabuleuse, mais j'en ai eu tout ce week-end, j'en ai eu beaucoup. Voilà, rencontrer le public, transmettre la connaissance, encourager les gens à lire, à s'instruire. Moi, c'est ma passion.
D'accord.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris pour l'instant ? Depuis la fondation des éditions de loi.
Du jeu de loi. Les éditions du jeu de loi.
Oui.
Eh bien, qu'est-ce qui m'a le plus surprise ?
Est-ce qu'au niveau, bon, quand je parle de surprise, est-ce que au niveau des écrivains, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris au premier abord et qui ensuite ont été éditées? Parce que c'est vrai que vous êtes à la fois directrice d'une édition, mais vous êtes aussi lectrice. Donc ce qui veut dire que parfois vous pouvez avoir une idée sur un ouvrage et vous peut-être vous dites bon oui mais c'est pas terrible pour vous, alors que globalement je sais pas comment ça se passe d'ailleurs.
Je dirais c'est plutôt le contraire. Moi j'aime vraiment mettre mes livres à la portée du plus grand public.
Oui.
Ça c'est vraiment mon credo. J'ai pas du tout envie de faire des éditions élitistes. J'ai vraiment envie que mes livres puissent être lus par le plus grand nombre. Mais alors des fois c'est vrai qu'on a des petits biais. Par exemple, quand Pierre-François Chaumereuil, qui est là, m'a présenté Chronique de Neustrie, moi je me suis dit Chronique de Neustrie c'est formidable, c'est un titre qui va bien. J'ai pas réfléchi que la Neustrie, moi je savais ce que c'était, hein, cette portion de France ou de Gaulle peut-être, de l'Antiquité tardive et de l'époque mérovingienne qui comporte notre région, la région entre Loire et Seine, et qui était notre région. Eh bien, on s'est rendu compte que finalement très peu de gens visualisaient ce que c'était et que c'était pas un titre très accrocheur. Voilà, c'est des choses, voyez, c'est un métier qui nous oblige à penser, à se mettre dans la tête des gens et à s'interroger sur comment va être reçu nos écrits.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, quand on lit, on se fait notre propre cinéma dans la tête. Et si le titre, comme vous dites, n'est pas en phase avec ce qu'on peut lire, ce qu'on pourrait lire, c'est vrai que ça peut avoir des hésitations. Mais moi, j'ai pas eu d'hésitation, je vous assure. Franchement, ça a été vraiment quelque chose de formidable.
Là, vous parlez de la Confession de Martin.
Voilà.
La Confession de Martin, ou la Croisade des enfants. On va en reparler tout à
l'heure. Oui, bien sûr. Ben, je vous propose de faire une pause musicale. Tiens, alors voilà, pour cette première partie d'émission, j'ai choisi des chanteurs ou des groupes qui ont des chansons qui ont des rapports avec la littérature. Le premier que j'ai passé tout à l'heure, c'était Marc Lavoine avec Le Pont Mirabeau. Et le second, c'est les Rolling Stones. C'est un morceau qui a été inspiré par un grand écrivain américain. C'est un morceau qui est archi connu. On l'écoute, ça nous fera revenir en arrière, hein, pendant notre jeunesse. Allez, à toi, là, vas-y.
C'est bon temps, ça.
I've been around for a long, long time.
C'était une chanson, vous venez d'entendre une chanson des Rolling Stones qui parle du diable. Un roman écrit par un écrivain. J'ai oublié de noter sur ma feuille, un écrivain américain. Voilà. Alors, nous avons eu un petit problème technique, c'est-à-dire que pendant 5 minutes, on a parlé dans le vide. Heureusement qu'Alain, à la technique, avait mis de la musique pour combler tout ça. On avait un problème avec les micros. C'est rétabli. Donc, je vous disais tout à l'heure, au tout début de l'émission, qu'on avait deux invités, Cécile Richard, des éditions du Jeu de Loi, et Pierre.
François.
Chaumereuil, qui a écrit un bouquin superbe qui se situe au Moyen-Âge, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. On revient à Cécile Richard. Alors Cécile Richard, elle est la fondatrice des éditions de Jeux de Loi. Et alors moi, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est comment on fonde une édition. Qu'est-ce qui s'est passé avant la fondation de cette édition? Qu'est-ce que vous faisiez
Ah ben moi j'étais chef d'entreprise dans un autre secteur, et puis quand la première entreprise a été vendue, ça a été le vrai problème de se dire mais
qu'est-ce que je vais faire
et surtout quel est le produit qui va vraiment m'animer et en fait ce sont les livres qui m'accompagnent depuis toujours, et c'est apparu comme une évidence plutôt que d'aller chercher midi à 14h. Voilà, essayons de faire ce qui nous plaît vraiment. Et comme ma deuxième passion, on va dire, c'est ma région, c'est la Loire, c'est la forêt, c'est l'histoire de notre territoire, j'ai tout à fait logiquement associé ces deux passions dans une maison d'édition dédiée à la mise en valeur de notre patrimoine régional.
Maison d'édition qui a quand même de fortes attaches avec la Loire.
Absolument. Et donc, le jeu de loi, on me demande souvent pourquoi le jeu de loi. Alors, il faut savoir que l'oie, c'est un oiseau qui, traditionnellement, transmet la connaissance. Ça, depuis l'Antiquité, c'est le symbole de la transmission de la connaissance, tout simplement parce que c'est un oiseau migrateur qui va de continent en continent, qui va du ciel à la terre, de la terre à l'eau, donc qui voyage beaucoup. Et le jeu de loi, mais vous savez qu'on là où je suis installée à Châteauneuf-sur-Loire, c'est au niveau des grands méandres de la Loire, où vous avez vraiment quelque chose. Un phénomène intéressant de sinuosité, et en fait c'est un petit peu ça que je voulais mettre en avant, le fait que la connaissance elle s'approprie tranquillement en picorant à gauche, à droite, et c'est pour ça quand on me dit qu'est-ce que vous faites vous comme livre, est-ce que vous faites que de l'histoire, que du roman? Non, je fais un petit peu de tout.
Oui.
Voilà, alors d'un côté on va avoir les beaux livres, les livres sur la nature, les livres de photos, les livres d'aquarelle. D'un autre côté on va avoir l'histoire locale, d'un autre côté on va avoir le roman historique, la jeunesse.
Voilà. Vous avez édité beaucoup d'ouvrages, est-ce que vous avez un nom à peu près
Là, entre 70 et 80.
Entre 70 et 80, d'accord, ok. Et... quelle a été la plus grande difficulté pour vous à la fondation de cette maison d'édition? La recherche des auteurs? Peut-être pas.
Alors, il faut partir avec un projet. Effectivement, j'avais un premier projet, c'était des photos sur la Loire. Donc, ça a été le premier livre, La Loire et ses hommes. Voilà, qui a été un vrai succès, qui m'a donné confiance. Et puis, très vite... on a des auteurs qui vous contactent et qui vous présentent des projets qui sont fort divers. La machine commence à rouler et puis Après, je vous raconterai comment ça se passe.
D'accord. Alors, on revient un petit peu aux oies. Les oies, est-ce qu'elles se posent à Châteauneuf, sur les berges, le berge de la Loire
Ah, on a des tas d'ornes en ce moment, absolument, oui.
Ça, c'est vrai que les oies, ce sont des animaux magnifiques et un peu mystérieux aussi parfois, mais bon, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une seconde pause musicale, oui, allez. Alors là, on va aller, je pense, dans le Baudelaire. On va aller dans l'ambiance Baudelaire. Oui, je pense que c'est ça. Avec Mylène Farmer qui va nous interpréter une chanson qu'on ne connaît pas beaucoup. Ça ne fait pas partie de ses hits, mais pourtant c'est une superbe chanson qui s'appelle L'horloge.
L'association Famille Rurale d'Outarville organise un vide-grenier le jeudi 29 mai. Cela se passera bien sûr à Outarville, 2 euros le mètre linéaire et vous aurez buvette et restauration sur place. Il y aura également une animation avec les trompettes de cavalerie et l'alouette de Pithiviers. Pour tout renseignement, il suffit de composer le 06 32 67 00 01 ou le 06 43 17 14 50. Vide-grenier à Outarville, et bien c'est le jeudi 29 mai.
Bon voilà, je pense que vous avez noté sur votre agenda le 29 mai. Nous, on revient aux éditions de Jeux de Loi et notre invité qui va nous parler un petit peu de sa passion de l'écriture. Alors, Cécile, remarquez, je suis en train de penser à quelque chose. Je me dis, quand on est éditrice, est-ce que ça nous donne envie des fois d'écrire ou pas? Est-ce que à force de rencontrer des personnes qui écrivent, qui font des livres, est-ce que ça donne envie, ça donne des idées pour écrire autre chose, quelque chose?
Alors déjà, j'écris. Hein. J'écris le journal Canton Info, oui. Notamment l'édito mensuel. Oui. Et bon, voilà. Comment dire ?
C'est un petit peu. Ça, c'est un petit peu du journalisme, je veux dire. Un petit peu Canton Info. Ça donne des nouvelles. C'est pas vraiment de la littérature comme j'entends quand je veux dire écrire un ouvrage, par exemple.
Alors, c'est pas de la littérature, effectivement. Ce sont des articles d'une page. Voilà. Mon édito, il fait une page. Mais honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à l'écrire. Et effectivement, bon, à savoir, pour répondre à votre question, est-ce qu'on n'a pas envie d'écrire ? Effectivement, j'écris ne serait-ce que ça. Et voilà, déjà là, je réalise cette passion, oui, d'écriture. Mmh. Après... Tout va dépendre des livres que j'ai dans les mains, mais il y a certains livres pour lesquels mon intervention est assez importante au niveau de l'écriture et de la réécriture. Donc là aussi, tous les jours, hein, je manie la langue, même si c'est la langue des autres. Et puis, à la question, est-ce que je n'ai pas envie de me mettre à écrire des livres, ben, j'ai déjà écrit des livres, en fait, notamment Châteauneuf-sur-Loire, Chronique d'hier et d'aujourd'hui. Alors, évidemment, là, c'est encore pareil. Vous allez me dire, c'est pas de la littérature, c'est pas un roman. Voilà. Alors, pour écrire, il faut plusieurs choses. Il faut aimer écrire et puis il faut avoir des choses à dire. Et dans le roman, eh ben, il faut avoir de l'imagination. Et aujourd'hui, je suis trop occupée pour avoir de l'imagination. Voilà, honnêtement, votre question. Je suis trop occupée pour avoir de l'imagination. Et le jour où j'écrirai, je me dis toujours un jour peut-être que j'écrirai quelque chose comme une saga familiale, peut-être comme... Comme les chroniques de Neustrie de Pierre-François Chaumreuil, hein, ces chroniques de Neustrie, deux tomes, époque mérovingienne et époque carolingienne, qui ont été doublement primées, l'une par le prix Fulbert de Chartres et l'autre par le prix du manuscrit de la Beauce et du Dunois, donc excusez du peu, hein, cher maître. Et voilà, mais j'aimerais faire ça pour ma propre famille, dont la généalogie a été réalisée. Et maintenant, ça, j'aimerais bien romancer ces histoires.
Puisque nous sommes dans les livres et la lecture, parlons d'un sujet qui est à l'ordre du jour actuellement. On en entend parler un peu partout, soi-disant que les gens ne lisent plus, surtout les jeunes. Est-ce que vous, au niveau de votre activité d'édition, vous avez remarqué une baisse de la lecture des gens ?
Alors, moi, je suis un créneau particulier. Moi, ma maison d'édition a 13 ans. Hein. Depuis 2012, je n'ai pas remarqué que les gens lisent moins. moi, j'ai remarqué depuis que j'ai commencé ma maison, quand je rencontre les gens sur les stands, sur les manifestations, etc., quand je discute avec le public, les gens commencent à lire à 50 ans, quand les enfants sont partis. Ça, mon public, il a plus de 50 ans. Parce que ce sont des livres à caractère local. Est-ce qu'avant on s'y intéresse moins? Moi, ce que je constate en revanche dans les salons du livre, c'est que mes collègues qui font du roman pour ados, ils font un tabac. Mmh. Aujourd'hui, le roman pour adolescents, c'est ça qui fonctionne. Mmh. L'heroic fantasy, la romance, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc honnêtement, dire que les jeunes ne lisent plus, je sais pas où on voit ça. Alors, effectivement, les jeunes sont pour beaucoup le nez dans leur téléphone, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne lisent pas. Sur un téléphone, on fait pas que regarder des vidéos, on lit aussi. Oui. Et on s'informe aussi sur les livres, les derniers livres à lire. Donc, pour moi, pour ma propre expérience, après, je sais que le CNL a fait une étude récente assez catastrophiste. Moi, ce n'est pas ce que j'observe autour de moi. Mais voilà.
Peut-être que les jeunes, puisqu'on parle des jeunes, lisent, mais lisent autrement que ce qu'on pouvait lire, déjà la matière, mais en plus la façon de lire.
Bah, est-ce que vous lisiez quand vous étiez jeune?
Oui, moi je lisais. Ça s'arrêtait d'un seul coup vers à 20 ans. Et j'ai repris à lire après 50 ans.
Et ben voilà, voilà. On est d'accord.
Oui, voilà. D'accord, ok. Bon, donc, on peut rester optimiste, je veux dire. Et il y a plus peut-être aussi, qu'il y a quand même quelque chose aussi, c'est que il faut aussi donner le goût de la lecture. Parce que, bien évidemment, on parle des écrans, on parle des téléphones portables et tout ça, mais il y a aussi un environnement qui doit être favorable aussi à l'apprentissage et à la lecture, et il y a le goût pour la lecture, surtout sur les plus jeunes.
Il faut des livres de qualité, ça voilà, c'est clair. Vous n'attrapez pas les mouches avec du vinaigre. Oui. Et moi, j'étais tout à fait désolée, mes enfants étant petits, de voir le niveau de la littérature pour enfants qui était tout à fait catastrophique. Je citerai pas ces maisons très connues qui nous servaient de la bouillie pour chat sans intérêt. Et c'est pour ça que moi je fais très peu de littérature pour enfants, et celle que je publie, j'ai envie qu'il y ait des histoires, mais vraiment passionnante pour les petits, qui est du vocabulaire, c'est ça qu'ils aiment. C'est pas leur raconter ce qui se passe dans la classe devant chez eux. Ça, c'est pas intéressant pour eux. Et c'est pour ça que l'héroïque fantasy fonctionne tellement. Parce que la littérature, c'est l'évasion. C'est ça qu'on cherche dans la littérature quand on est jeune.
D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous parlez d'héroïque fantasy, mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne vous cantonnez pas à un genre. Je veux dire, vous n'êtes vous n'êtes pas que dans le heroic fantasy, ni dans le policier, ni
de... Ah, moi, je fais pas d'heroic fantasy.
Voilà, en plus. Donc, non, mais je veux dire, tout à l'heure, vous l'aviez dit en antenne, vous n'êtes pas arrêté à un genre.
Alors, moi, ma ligne éditoriale, elle est claire. Je publie des livres sur notre région. Donc, globalement, le Loiret, la Loire, la Forêt, la Beauce, la Sologne, voilà, un petit peu tout notre région, mais alors ce terrain, je le cultive dans tous ces aspects. Donc ça va être des livres, des beaux livres, des livres de photos, des livres d'aquarelles, ça va être des romans du terroir, ça va être des romans historiques comme ceux de France, Père François Chaumreuil, ça va être également un petit peu de jeunesse, des livres sur l'architecture, des livres sur la société, voilà. Donc rien n'est exclu dès lors que ça se passe chez nous.
D'accord. Je vous propose de faire une nouvelle pause. Alors cette fois-ci, ça va faire une transition entre vous, Cécile, et notre invité. On va écouter deux petits morceaux que j'ai trouvés en cherchant un peu pour retranscrire un petit peu l'atmosphère du livre. Alors j'ai trouvé deux chansons de croisade. C'est d'abord Le Roi et ensuite Au revoir camarade. Alain, c'est quand tu veux.
Le Roi Noé.
Sur la route, veilleur à ton ange, que la Vierge te montre le chemin des étoiles où nous nous retrouverons demain. Que la Vierge te montre le chemin des étoiles où nous nous retrouverons demain.
Au revoir, camarade, que le Seigneur. Sur la route ou ailleurs à mon vent, que la Vierge te montre le chemin des étoiles, où nous retournerons demain. Que la Vierge te montre le chemin des étoiles, où nous retournerons demain.
C'était donc Le Roi et Au revoir camarade.
Très belle chanson.
Deux chansons de croisée, du moment des croisades. Alors, Pierre-François Chamreuil, ce livre, ce fameux livre, La Confession de Martin ou La Croisade des Enfants. Quand je commence, c'est pour tout dire, vous me l'avez dédicacé, vous me l'avez offert. C'était un dimanche, nous étions au bord de la Loire, et en rentrant, j'ai ouvert la première page, et au bout de deux jours, j'avais terminé le bouquin. Pourquoi ? Parce que, premièrement, on retrouve, pour ceux qui connaissent un peu la région, on retrouve des noms d'endroits, de lieux. Donc on voit un cheminement qui se fait tout doucement pour partir en croisade. Déjà, première chose, on se retrempe dans l'histoire, on se retrempe dans l'environnement du moment. Et on s'aperçoit que pour aller de Cloix-sur-le-Loire à Châteaudun, il faut un certain temps à pied. Tout simplement. Et ça me fait penser à me dire, quand on voit ces édifices comme les cathédrales, on se dit, beaucoup de gens, quand on discute, mais combien. comment ils ont pu faire? Ils ont dû mettre des années à construire ça. Mais le rapport au temps n'était certainement pas le même qu'actuellement. Voilà, ça c'était pour simplement pour vous expliquer qu'en fait, on a un cheminement dans ce livre qui fait que on est attiré, on veut continuer le chemin jusqu'à temps qu'il s'arrête, parce qu'il va s'arrêter. Alors dites-moi un petit peu, comment ça a commencé pour vous? La question que je pose souvent aux artistes musiciens, je leur dis, vous êtes tombé dans la cuve en étant jeune, c'est-à-dire, est-ce que écrire, ça a été toujours une passion pour vous? Comment ça vous est arrivé?
Cécile disait, on ne commence à lire qu'à 50 ans, alors... Pour écrire, c'est encore plus difficile. Donc, j'ai toujours eu l'idée d'écrire. J'avais envie d'écrire, mais je ne savais pas vraiment quoi, de toute façon. J'avais, comme je ne vais pas être le seul, mais acheté un beau cahier sur lequel j'avais l'intention d'écrire un premier livre. Et qui est resté vierge pendant très longtemps.
Ouais.
Et qu'ensuite j'ai utilisé pour faire la liste, commencer la première liste de bouquins que j'avais lus. Et puis en fait, c'est simplement quand j'étais en retraite que j'ai eu le temps. Et puis la disponibilité, disons, en fait.
Le temps de penser, de réfléchir à cette envie et puis de la concrétiser.
Voilà, mais surtout le temps qu'il faut pour rédiger, parce que même si on a un sujet qui plaît, qui vous plaît, même si on se dit bon, j'avais plusieurs idées possibles de bouquins, alors presque tous dans le domaine spontanément dans le domaine historique. Mais pas de l'histoire proprement dit. Je ne suis pas du tout historien. Je suis très intéressé par l'histoire. Donc j'avais des idées de choses qui étaient intermédiaires entre l'histoire de la vulgarisation ou du roman historique. Je lisais aussi pas mal de romans historiques. Comme beaucoup de ma génération, j'ai commencé avec Alexandre Dumas.
D'accord. Oui, bien sûr.
En retraite, j'étais installé depuis quelque temps à Beaugency, et je suis arrivé à Beaugency il y a une trentaine d'années. Et lorsqu'on arrive à Beaugency, lorsqu'on fait le tour de la ville, on voit que le quai s'appelle quai Dunois, que la place s'appelle place Dunois, que le cinéma s'appelle le Dunois. Alors, on s'interroge.
Voilà.
En fait, je connaissais le nom de Dunois et je savais que c'était...
Oui.
Que je savais à peu près qui c'était. Mais là, je me suis dit, et j'ai creusé, et je me suis dit, ça, c'est un sujet intéressant. Et donc, j'ai commencé, et c'est un sujet intéressant et relativement facile. Parce que...
Quand vous dites facile, je regrette de vous couper, mais quand même, pour écrire cet ouvrage, il vous a fallu faire quand même quelques recherches, parce que dans les dates, les époques, quand même, vous nous faites découvrir certaines choses.
Alors, pour que les lecteurs, pour que l'auditeur comprenne bien, on parle de ce livre qui s'appelle Mémoire de Dunois, Bâtard d'Orléans, Compagnon de Jeanne d'Arc. Donc, Jean de Dunois, c'est quoi les dates, Pierre-François?
Voilà, bah c'est en fait, il est né en 1403, Dunois, et en fait il a vécu toute la deuxième partie de la guerre de Cent Ans, et dans un rôle bien sûr très important. Et puis ensuite il a vieilli comme cousin et comme conseiller de Charles VII, et il a été éliminé des cadres dirigeants quand Louis XI est arrivé au pouvoir.
D'accord. Que ce soit cet ouvrage-là ou la confession de Martin ou la croisade des enfants, je veux dire par là, c'est que on n'écrit pas un ouvrage comme celui-là comme on peut écrire un roman d'amour un roman d'amour par exemple, parce que là il y a quand même il y a quand même certains repères, il y a quand même. Et puis en plus, vous expliquez aussi la société de cette époque, de ces époques-là. Notamment, je pense aux relations du peuple, la population, avec la religion, la puissance de la religion, tout ça. Vous expliquez aussi que les villes, elles étaient enfermées dans des remparts, dans des enceintes, et que pour rentrer dans les villes, il fallait franchir une porte, comme à Beaugency, par exemple. Et puis, tout ça...
Et attendre que ça soit ouvert.
Voilà,
si on arrivait
ouvert,
après le coucher du soleil, c'était fermé.
Voilà. Donc tout ça, c'est très, 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 très intéressant. On plonge dans une époque, et avec la façon dont vous l'avez écrit, on a l'impression d'accompagner ces croisades. Parce que dans cet ouvrage, La Confession de Martin ou La Croisade des Enfants, en fait, vous expliquez que Martin, en fait, tout simplement, il a eu une révélation. Je ne sais pas si c'est vraiment une révélation. Et puis, on lui a dit qu'il fallait faire une croisade. C'est un peu ça.
Alors, en fait, dans cette histoire, il y a effectivement, au départ, un berger, un pastoureau, comme on disait, qui entend une voix. C'est un peu Jeanne d'Arc.
Oui, voilà, exactement.
C'est un peu Jeanne d'Arc. Alors, il s'appelle Étienne, ce pastoureau. Et puis, aussi un peu comme Jeanne d'Arc, cette voix lui demande d'aller défendre d'aller sauver le tombeau du Christ.
Okay.
Alors, c'est pas peut-être toujours aussi clair que ça, mais en fait, finalement, c'est ce qu'il conclut. Et puis, ce jeune pastoureau, peut-être pas très évolué, qui sait quand même, ce qui est assez remarquable, qui sait à peu près lire ou écrire, ce qui devait être certainement très rare. Il va expliquer cela à l'abbé, ou plutôt au maître, puisqu'il avait été en fait novice dans un prieuré qui y a à Cloix-sur-le-Loir, et c'est là qu'il avait appris à lire, parce qu'il fallait bien en fait être dans un monastère en gros pour apprendre à lire. Et donc il explique ses visions. Et bien sûr, c'est rejeté immédiatement par l'abbé, par exemple.
Oui.
Mais ses voix continuent, il n'y a aucune raison qu'elles s'arrêtent, et il va se trouver... Alors comment expliquer que l'affaire commence à se monter vraiment? Parce que lui, c'est plutôt un... je cherche le mot, mais ça n'est pas un organisateur, évidemment. Il entend des voix, je cherche le mot qui
un
me...
mystique peut-être.
Voilà, c'est un mystique, c'est un peu un mystique. Très bien. Et il explique à d'autres jeunes, il explique à beaucoup de gens, mais en particulier à d'autres jeunes, et ces jeunes, ça va être en fait l'équipe des jeunes de Cloix ou des environs, dont le narrateur de l'histoire, qui s'appelle Martin, qui lui est quelqu'un qui c'est pas un mystique du tout. Il est assez il a un peu de l'avance sur son époque en matière de
communication, peut-être.
D'incrédulité, vous disiez.
De communication, peut-être.
Alors, peut-être aussi.
Oui, oui.
Et puis, lui, il est déjà beaucoup plus savant.
Mm-hmm.
Il a failli et il a refusé, en fait, d'être moine. Il a deux autres amis. L'un, c'est un fils de chevalier du coin de Montigny-le-Ganelon. Un autre qui est un fils de bourgeois, et finalement, notre Martin, il aime plaisanter, et il va pousser Étienne il va vraiment le convaincre, le convaincre que c'est bien des voix du Christ qu'il a entendu, et comme ça ne suffit pas de le convaincre qu'il a entendu une voix, il va lui remettre un papier, un parchemin, bien sûr, disant la même chose que ce qu'il y avait dans les voix. Et voilà le point de départ de l'histoire.
Le parchemin, il était faux.
Un parchemin qu'il a rédigé lui-même, mais pour un jeune pastoureau de 1200 et quelques, voir quelque chose d'écrit, pratiquement signé Dieu, en gros, signé Jésus-Christ, ou même si ça n'est pas signé, c'est quelque chose forcément d'impressionnant et ça va servir de déclencheur à l'histoire.
Pour ne parler que de la région, on chemine, donc on est à Cloix-sur-le-Loire, on va faire un petit tour à Chartres d'abord, parce qu'il y a une grande foire à Chartres, après on revient à Cloix-sur-le-Loire, et après on part en croisade. Voilà. On va d'abord à Châteaudun, ensuite on va à Blois, ensuite on chemine, on va à... Il y a quelque chose entre deux, entre Blois et Beaugency, il y a une autre halte, mais je me souviens plus du nom. Je sais plus. Enfin, bon, on arrive à Beaugency, Main-sur-Loire et Orléans. Et à chaque fois, on s'aperçoit que pour pouvoir rentrer... Alors, au fur et à mesure que le trajet se déroule, au fur et à mesure, le nombre des pèlerins, des jeunes pèlerins, grandit. Et on arrive devant des villes qui voient arriver une horde de jeunes qui se demandent ce que c'est. Est-ce qu'on leur ouvre les portes? Est-ce qu'on leur ouvre pas les portes? Et puis après, une fois qu'on a ouvert les portes, il faut aller demander la bénédiction et l'autorisation aux autorités religieuses pour continuer, c'est ça, hein?
Absolument. Au départ, de toute façon, pour faire un pèlerinage, il fallait l'autorisation des autorités religieuses. Alors si c'était pour aller à Tours, celle du curé du lieu suffisait. Là, pour aller à Jérusalem, nos pèlerins, là, ils sont allés voir, ils sont allés, comme vous disiez, en fait, même jusqu'à Saint-Denis, voilà. Où ils ont été rejetés. Vrai. Mais en fait, l'idée, c'était d'obtenir l'autorisation. Ils l'ont obtenue de la part de l'évêque de Chartres, et puis aussi d'obtenir quelques finances.
D'accord. Alors, on va pas dévoiler tout le contenu du livre, mais... Et vous verrez, parce que, comme vous avez mis une petite dédicace sur le livre, tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas sur les lieux de la croisade.
Hein, voilà.
C'est vrai, voilà. En plus, dans ce bouquin, on ne parle pas que de la croisade des enfants. Vous resituez aussi les croisades qui entourent tout ça, les motifs, tout ça. Voilà. C'est très, vraiment, moi, je vous conseille vraiment de vous procurer cet ouvrage, parce que... Alors... Combien de temps ça vous a mis pour écrire un bouquin comme ça?
En durée, ça, j'en ai fait une première version en un an environ. Et puis après, j'ai peaufiné pendant quelques mois. Donc environ 18 mois, mais il y a des jours où je m'étais passé plusieurs heures et puis d'autres où je n'écrivais pas, en fait. Et puis une partie du travail, c'est aussi de lire des choses sur l'environnement. Par exemple, il est question dans ce bouquin de la croisade des Albigeois qui se déroule à la même époque. Il faut quand même... Pour coller tout ça, pour que ça ait un sens, il faut lire, comme on dit toujours, il faut relire. Quelquefois, c'est relire des choses qu'on n'a jamais lues, mais enfin. Ça, c'est une bonne partie du temps, c'est une bonne partie aussi du plaisir de l'histoire.
Et le syndrome de la page blanche, ça existe pour vous ou pas?
Excusez-moi, j'ai
pas... Le syndrome de la page blanche.
Non, je connais pas trop.
D'accord, non, parce que...
Mais du bouquin blanc, oui, pour démarrer un sujet.
D'accord. On refait une pause musicale. Cette fois-ci, on va écouter un chant ancien français qui date du XIIe siècle. Alain, si vous voulez bien, voilà.
meu avus ein sarg labur des pures ebes paradis qui vive un feist et nes enos que vator tuns et fieus sei sitz wie ein